L'accent des autres, avec les médias francophones publics.
Voici l'actualité de la semaine vue par les médias francophones publics, avec d'abord aujourd'hui une nouvelle mobilisation du monde agricole. En Belgique d'abord, avec une manifestation mercredi dernier dans le quartier européen à Bruxelles. Les agriculteurs ont aussi accroché en province des mannequins pendus à des carrefours, signe de leur désespoir. Ils dénoncent leurs conditions de travail et de rémunération, Jacques Crémers.
Oui, car un an après des manifestations où des promesses leur ont été formulées, ils estiment que rien n'a changé, en tout cas pas suffisamment, ni les prix, ni la simplification administrative. Et ils redoutent à présent l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange entre le Mercosur, l'Amérique du Sud et l'Europe.
Mobilisation des agriculteurs aussi en France, et ça devrait prendre de l'ampleur dès la semaine prochaine. Là aussi, les craintes sont vives à l'égard de ce traité entre les pays du Mercosur et l'Union européenne. Comme en Belgique, des messages s'affichent sur les ronds-points. Nous serons en Corrèze dans quelques instants. Le Sénégal vote ce dimanche des élections législatives anticipées pour un enjeu important, Nicolas Sûr.
Oui, le PASTEF, le parti du président Bassirou Diomaye Faye et de son premier ministre Ousmane Sonko, qui a largement remporté la dernière présidentielle, espère obtenir la majorité à l'Assemblée, qui est toujours dominée par l'ancien pouvoir.
D'une élection à une votation, faut-il élargir des autoroutes pour absorber l'augmentation du trafic motorisé? Le peuple suisse va devoir répondre à cette question le 24 novembre, c'est dans 8 jours, Pierre Anchoffat.
Pour les autorités, il s'agit d'éliminer des goulets d'étranglement sur le réseau des routes nationales. Les opposants rétorquent que cela provoquera un appel d'air et donc de nouveaux embouteillages à court terme.
Enfin, le scandale qui a touché Canada Soccer aux derniers Jeux Olympiques refait surface. Nadi Moubarak, on parle ici des équipes nationales de football. Il s'agit de cette pratique d'espionnage de l'adversaire à l'aide de drones.
Oui, une enquête de Radio-Canada révèle que cet espionnage perdurait depuis une dizaine d'années et qu'il s'agissait d'une culture qui pouvait être définie comme systémique.
Voilà donc pour les titres. Merci d'être au rendez-vous de l'accent des autres. Le mécontentement des agriculteurs, donc, à Bruxelles d'abord, devant les institutions européennes, c'était mercredi dernier, pour dénoncer l'accord entre l'Union et le Mercosur. Ce sont plusieurs pays d'Amérique du Sud. Et puis, en province, Jacques, au-delà de cette manifestation, les agriculteurs ont mené une action choc avec des mannequins pendus.
Une action qui, en effet, a choqué certains automobilistes, comme dans un western à l'époque du Far West, dépendu à certains carrefours une pancarte autour du cou pour exprimer le désespoir de certains agriculteurs. Ce sont des épouvantails, des mannequins en paille accrochés à des ronds-points, des carrefours, pour dénoncer les conditions de travail et de rémunération, comme l'explique cet agriculteur en province de Liège.
On a manifesté pour la simplification administrative aujourd'hui dans nos exploitations. Je pense que pas beaucoup d'exploitants voient la différence au niveau des papiers. On a manifesté pour un prix plus juste pour notre travail. On n'a pas un prix beaucoup meilleur qu'avant. Donc pas grand-chose n'a changé par rapport à ce qu'on réclamait dans les manifestations précédemment.
Voilà pour ce témoignage donc. Mais cela dit, les agriculteurs n'ont pas manifesté que de façon symbolique. Ils se sont aussi rassemblés à Bruxelles, Jacques, devant les institutions européennes.
Et cette fois pour dénoncer le volet agricole de l'accord commercial en passe d'être signé entre le Mercosur, plusieurs États d'Amérique du Sud et l'Europe. Ce traité permettrait à nos entreprises d'exporter des voitures, des produits pharmaceutiques et toutes sortes de produits contre de la viande, du maïs, du blé en provenance du Mercosur. Ce que contestent les agriculteurs belges et des collègues européens, français notamment, rassemblés ce mercredi à Bruxelles, comme cet éleveur de la province de Hainaut.
Nous, on produit plus blanc que blanc en Belgique, en Europe. Là-bas, il n'y a aucune traçabilité. La viande là-bas va revenir bien meilleur marché que par ici, au détriment de la santé de tous les Européens. Là, je pense que si on est encore submergé par ces viandes là qui viennent du Mercosur, ben, je pense qu'on pourra arrêter l'élevage et il n'y aura plus d'élevage en Europe.
Ces revendications permettront-elles d'empêcher la signature du traité avec le Mercosur? Il pourrait être signé ce début de semaine prochaine, lors du sommet du G20 qui se tient précisément au Brésil.
Et précisément à cette occasion, les agriculteurs ont annoncé qu'ils ne relâcheraient pas la pression en France notamment. La Fédération des syndicats d'exploitants agricoles annonce une mobilisation nationale à partir de lundi. Eux aussi craignent une potentielle signature de cet accord dont on vient de parler. Vous entendez que ça coince notamment sur des quotas d'importation de viande bovine latino-américaine. En Limousin, des mobilisations ont donc déjà commencé, mais aucun blocage de route. Le message s'affiche en fait sur plusieurs ronds-points de Corrèze, comme à Masseret. C'est ce qu'a pu constater cette semaine Thibaut Pointeau.
À la sortie de l'autoroute, deux tracteurs débarquent à la tombée de la nuit avec deux bottes de foin.
Là, on aura juste à les enrubaner.
On pose les miennes là ou les tiennes?
Et on va mettre nos bottes en face de l'autoroute pour que quand les gens sortent de l'autoroute, ils voient nos revendications.
On va commencer là si tu veux.
Oui, oui.
T'as le film?
Gilles Lavergne élève des bovins et des canards depuis 25 ans à Benail.
Bon, je te laisse écrire. Et j'ai la bombe, alors j'ai du blanc ou du rouge?
On dirait que c'est un positionnement symbolique sur les ronds-points.
Voilà, c'est ça.
On n'est pas là pour emmerder le peuple.
Avec écrit nous au Mercosur.
Voilà, tout simplement.
Car avec ce traité, c'est toute l'exploitation de Gilles qui est menacée.
Ce que je dis, ça va tirer les prix par le bas. Ben, on peut perdre entre 50 centimes et 1 euro du kilo de la viande vendue. Sur 100 bêtes, ça peut représenter un petit paquet d'argent sur une année, quoi. Et on va tout brader des produits de merde, quoi.
C'est donc la compétitivité des exploitations françaises qui est en jeu.
Allez, à ton tour, j'ai attaqué, moi. Là, c'est le président de la section bovine, donc il est plus important que moi.
Laurent Boisset de la FDSEA, de la Corrèze.
C'est pas sauver le monde agricole, mais on n'en est pas loin, quoi.
Au niveau sanitairement, on est le pays le plus clean au monde et on va négocier avec de la vente hormonée. Alors.
Et en plus, on va venir nous importer de la viande encore meilleur marché. C'est la fin pour les éleveurs français, quoi, tout simplement.
Et c'est seulement le début de la mobilisation avec de nouvelles actions prévues dès lundi.
Reportage de Thibaut Pointeau pour France Bleu Limousin.
L'accent des autres.
Le Sénégal vote ce dimanche, ce sont des élections législatives. Le nouveau président Bassirou Diomaye Faye espère obtenir la majorité qui lui fait défaut à l'Assemblée nationale, Nicolas.
Oui, car depuis sa victoire dès le premier tour de la présidentielle au mois de mars dernier, Bassirou Diomaye Faye doit composer avec une assemblée toujours dominée par l'ancienne majorité présidentielle. C'est pour cela qu'il a prononcé sa dissolution dès que la Constitution le lui a autorisé. Ses candidats affrontent plusieurs coalitions, dont celle qui est menée par l'ancien président Macky Sall. Ce dernier signe avec ses législatives son retour en politique. Il est tête de liste, mais il a fait campagne à distance depuis le Maroc, où il est installé depuis son départ de la présidence.
Et signe de l'importance de l'enjeu, la campagne a été émaillée de fortes tensions.
Oui, Ousmane Sonko martèle que les anciens dirigeants devront rendre compte aux juges de la crise des dernières années et de leur gestion financière. Les tensions sont aussi montées avec son ancien allié, Barthélémy Diaz, maire de Dakar. Le Premier ministre a dénoncé des violences contre ses militants de la part de ceux de Barthélémy Diaz et les a appelés sur Facebook à se venger. Cette déclaration a provoqué de vives réactions au sein de l'opposition, de la société civile, mais aussi au sein même du PASTEF, à tel point qu'Ousmane Sonko a fini par revenir sur ses propos, appelant ses militants à rester calmes et pacifiques.
Le peuple suisse doit trancher dans une semaine. Il doit notamment se prononcer par votation sur l'élargissement de 6 tronçons d'autoroute. Ce sont des axes régulièrement engorgés, Pierron.
Oui, 46 kilomètres en tout du réseau actuel seraient élargis, 5 projets en Suisse alémanique dont 3 tunnels et un projet dans la partie francophone sur l'axe Lausanne-Genève pour faire passer à 3 voies dans les deux sens quelques 19 kilomètres d'autoroute à l'approche de Genève. Pour le gouvernement, il s'agit d'adapter nos infrastructures aux besoins de mobilité. Or, le trafic a plus que doublé ces 30 dernières années et quand les bouchons se forment, certains quittent l'autoroute et encombrent les villes et villages qui bordent l'autoroute.
Et donc ces projets sont combattus par la gauche et par les écologistes.
Eh bien pour eux, la réponse n'est pas la bonne. Les goulets d'étranglement ne seront que déplacés. Le gain de fluidité ne sera qu'éphémère. Même l'Office fédéral des routes convient que les embouteillages redeviendront la norme au bout de 10 ans. Mieux vaudrait donc, selon eux, promouvoir encore plus les transports publics et la mobilité douce. Vice-présidente de l'UDC, Céline Amoudru dénonce l'obstruction de la gauche qui entrave les besoins de mobilité de l'économie et des entreprises.
Elles ont besoin des moyens de transport, des routes qui leur permettent de pas passer 48 000 heures par année dans les bouchons. Moi, franchement, je regrette vraiment ce dogmatisme parce qu'on peut rien dire d'autre de la part de la gauche. C'est dogmatique. contre la voiture. Ce n'est pas une question de bon ou de mauvais projet pour eux, c'est contre la voiture.
Vice-président du Parti Socialiste, Baptiste Turny, se défend de tout dogmatisme.
La population suisse a mieux à faire avec 4,9 ou 5 milliards. Vous avez raison, c'est pour la route que seront ces 4,9 milliards. Mais des projets qui sont plus intelligents que ceux-là, qui sont juste faire des méga-autoroutes qui résoudront aucun problème de bouchons. Et je rejoins Madame Amoudru, on doit faire en sorte que le trafic soit fluide pour les PME de ce pays, mais ce n'est pas le projet qui nous est soumis qui permettra de le faire.
La fin de campagne s'annonce mordante. Les derniers sondages indiquent un basculement du oui vers le non.
Enfin, vous vous souvenez peut-être de ce scandale d'espionnage par drone qui a éclaboussé l'équipe canadienne féminine de soccer, de football. C'était l'été dernier aux Jeux Olympiques de Paris. Le comité olympique néo-zélandais s'était plaint que des drones avaient survolé deux séances d'entraînement en marge du tournoi. Eh bien, une enquête de Radio-Canada révèle, Nadi, que ce cas n'était que la pointe de l'iceberg.
Voilà, Radio-Canada a interrogé une vingtaine de personnes, que ce soit d'anciens joueurs, des employés de Canada Soccer, des agents, et tous nous ont décrit une culture d'espionnage. Un espionnage devenu culturel, systémique et même obsessionnel. Selon nos informations, cet espionnage perdurait en fait depuis près d'une dizaine d'années et des dirigeants de Canada Soccer étaient au courant. Les images captées par drone permettaient à l'entraîneur d'avoir des informations sur les plus récentes tactiques de l'adversaire et ce à l'encontre de toute éthique sportive. Des personnes bien au fait du dossier nous ont décrit ces pratiques. Nous avons modifié leur voix pour éviter des représailles professionnelles.
Depuis que les drones existent, une stratégie qui est employée. Tout le monde le savait à l'interne. Comment c'était opéré? De la façon la plus simple du monde. Tu vas te mettre dans un buisson le plus loin possible et tu opères ton drone haut dans les airs pour observer les tactiques d'entraînement de l'équipe adverse.
Le non n'était pas une option pour les gens qui manipulaient le drone. S'ils ne le faisaient pas, ils étaient pratiquement mis de côté.
Et cette technique avait d'abord été mise en place au niveau de la sélection féminine avant d'être institutionnalisée dans toutes les branches de Canada Soccer.
Alors comment réagit Canada Soccer?
Eh bien, à la suite du scandale aux Jeux de Paris, Canada Soccer a demandé une enquête indépendante. L'organisation était sous pression, notamment du gouvernement fédéral, qui lui verse chaque année des subventions publiques. Les conclusions du rapport d'enquête viennent d'être communiquées.
Et qu'est-ce qui en ressort finalement, Nadi?
Alors Canada Soccer procède à un grand ménage et promet de prendre toutes les mesures nécessaires dans le but d'éviter un autre scandale d'espionnage. La fédération sportive a annoncé le congédiement de l'entraîneuse de l'équipe féminine et deux de ses collaborateurs. L'enquête révèle que les directives d'espionnage par drone venaient directement de l'entraîneuse, mais que les images captées aux Jeux de Paris n'ont pas été visionnées par les joueuses. Le rapport reconnaît aussi que l'espionnage était répandu à Canada Soccer.
Nadi Mobarak, pour refermer l'accent des autres, merci à vous d'avoir été là une nouvelle fois. Les médias francophones publics reviennent bien sûr la semaine prochaine pour un nouvel accent des autres. À très bientôt.